peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Régor, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
6. Depuis le début de l'année 2026, le Rojava fait face à une offensive éclair du gouvernement Al-Shara, soutenu par la Turquie d'Erdogan, lui aussi islamiste, centralisateur, et soutenu par les États-Unis de Donald Trump. Le vendredi 13 février 2026, le comité Rojava Paris organisait une conférence sur la situation politique, militaire et géopolitique du Rojava. Les comités Rojava sont des comités de soutien à la cause kurde. Ces derniers ont organisé des convois de solidarité composés de jeunes ouest-européens, dont certains ont pu atteindre la frontière turco-syrienne. Un accord a été signé par rapport à l'avenir de l'administration autonome, prévoyant son intégration progressive au fonctionnement syrien sur le plan militaire et politique, et certaines garanties des droits des Kurdes. Alors, que signifie cet accord? Comment est-il appliqué et comment va-t-il l'être à plus long terme? En quoi cette guerre s'inscrit-elle dans un contexte plus global de restructuration du Moyen-Orient par les forces impérialistes et concerne donc tous les peuples de la région? Autant de questions qui furent abordées lors de cette réunion d'information le 13 février 2026 au siège du Centre démocratique kurde de France à Paris. Et dans l'émission de ce jour, nous vous proposons l'écoute des interventions issues de cette rencontre. Bonne écoute.
Pour commencer, du coup, la présentation pour vous faire un aperçu. On est aussi avec des camarades qui ont fait partie de la Caravane des Peuples. Du coup, c'est une initiative qui s'est lancée du coup, au plus fort des attaques. Quand il y a eu la mobilisation qui a été annoncée, il y a des centaines de camarades partout en Europe qui se sont rassemblés pour faire une caravane. Donc plusieurs voitures qui se sont rendues jusque à la frontière avec Kobané. On va commencer un petit point sur qu'est-ce que c'est le Rojava. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas trop. Mais on vous invite aussi à plus aller vous renseigner parce que vraiment le point ce soir, c'est aussi de plus parler des attaques qui ont eu lieu. Qu'est-ce que c'est le nouvel accord de cessez-le-feu aussi qui a été mis en place? Qu'est-ce que ça veut dire pour la révolution? Et puis aussi, on voulait faire un petit point géopolitique parce qu'en fait, ces attaques qui ont lieu actuellement au Rojava, elles sont liées en fait avec tout ce qui se passe, à tous les conflits qui ont lieu au Moyen-Orient. En Amérique du Sud, enfin, toutes ces attaques sont liées à un projet des puissances capitalistes. Et donc ça nous paraissait aussi important de faire un petit point là-dessus. Donc on s'arrêtera sur ça aussi à un moment. Je vous propose de commencer directement par qu'est-ce que c'est la révolution du Rojava. Pour comprendre bien déjà, il faut revenir 100 ans en arrière, donc après la Seconde Guerre mondiale, les puissances impérialistes, et donc particulièrement la France et l'Angleterre, se sont divisés le Moyen-Orient en plusieurs États-nations. Donc ce qui était auparavant l'Empire ottoman a été découpé selon les intérêts des puissances impérialistes. Et il y a des peuples qui se sont retrouvés sans État, qui se sont retrouvés entre plusieurs frontières. C'est notamment le cas du peuple kurde qui, du coup, se situe actuellement entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. C'est vraiment une grande région, 40 millions de personnes, le plus grand peuple sans État, on pourrait dire. Donc ça, c'était avec le traité de Lausanne en 1924-25. que la région a été découpée de cette manière et que les Kurdes se sont retrouvés sans État et du coup sans moyen de s'auto-administrer aussi et d'avoir leur propre existence, que ce soit politique, mais aussi plus tard avec des grosses répressions en termes de en termes culturels, d'existence en tant que peuple et de reconnaissance. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le Parti des travailleurs du Kurdistan, d'abord du coup dans la partie turque, le Bakour, et qui a donné naissance au mouvement, on pourrait dire le mouvement de libération kurde, qui a donné naissance plus tard en 2015, à la suite des printemps arabes, à une libération de la région du coup. C'est ce qu'on appelle le Rojava. Rojava en kurde, ça veut dire ouest, et c'est la partie du coup ouest du Kurdistan. Du coup, suite au printemps des peuples, comme je disais, il y a eu, de la part de la population, des soulèvements, de la part, au début de la population kurde, située dans ce territoire, qui ont expulsé en fait, l'armée du parti d'Al-Assad, et qui ont repris en fait, le contrôle de la région, et qui se sont auto-organisés de manière démocratique. Du coup, c'est le projet qui a été mis en place au Rojava. C'est un projet qui est basé sur la liberté des femmes, sur l'écologie, et sur la démocratie directe. Donc du coup, la société s'organise sur la base des communes, et du coup, tout part d'en bas et remonte petit à petit en assemblée, et toujours avec l'avant-garde des femmes qui est mise à l'avant, et aussi l'idée d'autodéfense, donc du coup, des forces d'autodéfense qui ont été créées. Donc au départ, c'était les YPG, les YPJ, donc YPJ qui sont des forces d'autodéfense féminines, et puis qui sont plus tard aussi intégrer les FDS, les forces démocratiques syriennes, du coup qui sont plus générales avec tous les peuples en fait de la région. Parce que ce qui est important à comprendre aussi avec ce projet du Rojava, c'est que c'est aussi basé sur le concept que Abdullah Öcalan a théorisé de nation démocratique. Ça veut dire, au contraire de l'État-nation qui se base sur un peuple, une nation, une langue, une culture. La nation démocratique, c'est tous les peuples qui sont présents dans la région, toutes les religions qui sont présentes dans la région, coexistent ensemble et vivent ensemble de manière démocratique. Et c'est ça qui a été mis en place au Rojava. Et ce qu'on appelait au départ la révolution du Rojava, en fait, plutôt dans les années 2018-2019, s'est agrandi du coup tout au sud aussi, avec des régions qui sont à majorité arabe, mais dans lesquelles aussi y a les peuples syriaques, toutes sortes de religions, ézidis, arméniens, enfin tout un tas de peuples qui vivent en fait ici et qui se sont auto-organisés dans ce qui a été appelé l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Donc du coup le projet de révolution du Rojava s'est agrandi et a vraiment compris tous les peuples du nord et de l'est de la Syrie. Et au cours de cette résistance, donc que ce soit contre l'État turc, contre le régime de Bachar al-Assad au début et contre Daesh, aussi, en 2014, il y a eu toute une offensive qui a été mise en place, et notamment contre la ville de Kobané. Et donc le fameux appel de Kobané qui a donné lieu à des centaines d'internationalistes qui sont venus de plein d'endroits du monde pour prendre part à cette révolution, pour défendre cette révolution, que ce soit en prenant les armes, en prenant part au système de santé, en prenant part au sein de la société, au travail de médias ou à des travaux écologiques. Donc ça a été vraiment un point de départ pour tout un renouveau, une venue d'internationalistes en fait au Rojava. Il y a notamment la commune internationale qui a été créée là-bas et qui continue toujours à exister là-bas et qui accueille des internationaux pour aussi partager les expériences et amener aussi à construire ailleurs. Et du coup, au cours de cette résistance, il y a des centaines et des milliers de camarades qui ont donné leur vie pour défendre cette révolution. On ne sait pas exactement les chiffres, mais il y aurait près de 13 000 camarades kurdes qui auraient donné leur vie, et notamment aussi des centaines de martyrs internationalistes qui ont combattu pour la révolution du Rojava, donc d'Allemagne, d'Angleterre, de France, d'Amérique latine. Chehid Bagher Noujian, Shahin Khalachour qui venait de Marseille, Anna Campbell qui venait d'Angleterre, Kendall Brace, l'anniversaire d'ailleurs de son martyr c'était hier, qui venait de Bretagne. Donc voilà, des centaines de martyrs aussi qui ont donné leur vie à ce moment-là aussi pour défendre et mettre en place cette révolution. pour comprendre les attaques qui ont commencé début janvier, on voulait faire un petit point sur HTS et Jolani. Donc il faut revenir en fait le 8 décembre 2024. Donc le régime basse de Bachar al-Assad, qui était au pouvoir depuis 50 ans en Syrie, a été renversé. Et ce sont les milices du HTS du coup, qui ont pris le pouvoir. Et donc avec à leur tête al-Jolani, qu'on appelle aussi Ahmed al-Sharaa, et qui est aujourd'hui le président intérimaire autoproclamé de la Syrie. Donc du coup, un peu pour le parcours de al-Jolani, lui, il faisait partie de Al-Qaïda en Irak. Il avait été emprisonné aussi par les États-Unis entre 2005 et 2011. Il avait été missionné par Abu Bakr al-Baghdadi, donc le chef de l'État islamique, pour fonder une branche de l'État islamique du coup, en Syrie. Ce qu'il avait fait, qu'il avait créé du coup Al-Nusra, il s'est séparé de l'État islamique à ce moment-là, mais du coup c'était toujours en lien avec Al-Qaïda qu'il a créé cette branche de Al-Nusra. Et plus tard, il y a cette sorte de coordination qui s'appelle Hayat Tahlil al-Sham, qui a été créée en 2017, et donc du coup qui a pris le pouvoir en 2024 sur toute la Syrie. Mais du coup, il y a eu tout un revirement médiatique qui a été mis en place autour de HTS et de la figure de al-Jolani, donc qui se montre comme rejetant les aspects les plus extrêmes de l'idéologie salafiste et se présentant au minimum comme une organisation qui représenterait un risque pour l'Occident. Donc il y a eu vraiment tout ce processus par les médias occidentaux de transformation de cette figure de al-Jolani qui serait un terroriste à al-Sharaa qui serait un homme diplomatiquement respectable avec qui on pourrait avoir des accords, des partenariats, etc. Mais voilà, en fait, très vite après que HTS ait pris le pouvoir, il y a eu des massacres qui ont été perpétrés contre la population alaouite et la population druze, notamment. Donc très vite, en fait, ils ont montré leur vrai visage aussi et leur lien idéologique fort qui les lie toujours avec Daesh et Al-Qaïda. Mais voilà, malgré cela, la Syrie a été intégrée dans l'ordre capitaliste mondial. Donc que ce soit en termes économiques, les sanctions ont été levées. Il y a l'Union européenne qui a promis très récemment 620 millions d'euros pour la Syrie. HTS a été délisté des organisations terroristes. Et la France a investi dans le port de Latakia. Donc vraiment tout un truc d'intégration progressive de HTS, leur régime, comme une alliance qui a été créée avec les puissances capitalistes. Et on va plus tard parler de pourquoi ce revirement. Du coup, tout au long de cette année 2025, l'administration autonome a cherché à mettre en place des dialogues avec le nouveau gouvernement de transition syrien pour avoir un statut, en fait, être assis. Parce que depuis le début de la révolution, il y avait toujours une forme d'incertitude due au fait que l'administration autonome n'a jamais été reconnue nulle part. Et donc, du coup, qui était très ouverte aussi aux attaques, notamment de la Turquie, qui menait très régulièrement des attaques de drones sur le territoire. Ça s'inscrit également, on va reparler plus tard, dans le cadre du processus de paix et de société démocratique qui a été lancé en 2025. Et donc d'essayer de lancer un processus de paix et d'assurer un statut aussi pour le Rojava. Voilà, il y a donc plusieurs tentatives, notamment le 10 mars, pour créer des accords, mais qui n'ont pas vraiment pu aboutir, notamment dû à des pressions extérieures, des pressions de la Turquie, etc. Et ce qui a donné lieu, du coup, aux dernières attaques. Donc, pour comprendre les dernières attaques qui ont eu lieu, il y a une date très importante. C'est le 5 janvier de cette année-là, à Paris, donc ici même, sous la Coupe de la France, a eu lieu une réunion entre HTS et Israël, avec la présence aussi des États-Unis, pour un peu créer un accord. Donc ce qu'on a compris de cet accord, en fait, c'est que Israël s'empare d'une partie du sud de la Syrie, donc la région du Golan. Donc du coup, c'est une région très stratégique qu'Israël convoite depuis longtemps, sur laquelle ils sont installés, mais que là, du coup, ils se sont installés aussi de manière plus large sur la région. Et en échange, la coalition internationale a laissé libre cours aussi à ce que la Turquie et HTS s'emparent plus de tout le nord, et le nord-est de la Syrie notamment, et s'attaquent en fait à la révolution du Rojava. Donc ça, c'est vraiment cette réunion qui a eu lieu à Paris qui a aussi déterminé ça, puisque directement après, le 6 janvier, les attaques ont commencé sur les quartiers de Sheikh Mahsoud et de Achtelfieh, du coup, qui sont situés à Alep. Les attaques ont commencé là-bas, donc dans ces deux quartiers à majorité kurde, et qui résistent depuis des années à la colonisation, et donc là qui ont subi des attaques très lourdes de la part de HTS et plusieurs milices, et aussi l'État turc. À la suite de cette attaque, les forces démocratiques syriennes se sont retirées au bout de 4-5 jours. Et petit à petit, en fait, ce sont toutes les régions du coup de Deir ez-Zor qui ont progressivement été reprises également. Du coup, ça, c'est les régions en majorité arabe. Elles ont progressivement été reprises sans qu'il y ait de grands combats, parce qu'il y a vite des accords aussi qui ont été pris. Les FDS se sont retirés, ont pris la décision de se retirer pour éviter en fait que des conflits ethniques majeurs aient lieu. Et donc voilà. Autour de ces villes de Tabqa, Raqqa et Deir ez-Zor, il faut savoir qu'il y a des prisons donc qui renfermaient des prisonniers de Daesh, des milliers de prisonniers de Daesh. Donc ça, ces prisons sont retombées sous le contrôle de HTS. Et suite à ça, donc des milliers de prisonniers qui étaient donc des membres de Daesh se sont évadés. Mais c'est important de savoir que du coup, toutes ces offensives ont donné lieu à un renouveau de Daesh et à des évasions aussi multiples de prisonniers qui faisaient partie de Daesh. Au cours de ces attaques, ce qui a été répertorié, c'est qu'il y a 170 000 personnes qui ont été déplacées, notamment une grande partie qui sont parties à Kobané. Kobané, donc la ville qui avait résisté en 2014 contre Daesh et qui est maintenant sous siège depuis 24 jours. Pour les quartiers de Alep, il a été répertorié qu'il y aurait eu 1200 morts dans les quartiers kurdes. Mais c'est toujours des chiffres à confirmer et il y a toujours des centaines de personnes qui sont disparues. Des nombreux membres de Daesh se sont échappés de prison. Il y a eu des bombardements d'infrastructures civiles, des tortures, des désacralisations de tombes dans les cimetières de martyrs, de nombreuses violences sexuelles aussi qui ont été répertoriées. Les villes kurdes qui ont été assiégées. Donc toutes ces attaques, il y a eu énormément de crimes de guerre qui ont été perpétrés. Là, ici, c'est des combattantes kurdes qui ont été capturées. Donc là, sur cette photo, c'est écrit qu'elles sont offertes comme un cadeau. Donc énormément de violences sexuelles. Cette photo également qui a énormément circulé, c'est un mercenaire de Daesh, HTS, on ne sait pas exactement, qui, après avoir assassiné une combattante kurde, a coupé sa tresse, comme un trophée de guerre, en fait. Suite à ça, il y a eu tout un mouvement qui a émergé, mais dans le monde entier, de tresser la résistance, ça s'appelait. Je pense que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, du coup, des femmes qui tressent leurs cheveux comme un symbole de dire peut-être qu'ils cherchent à tuer la révolution des femmes au Rojava, ils cherchent à attaquer la volonté des femmes, mais on est tous ensemble et on tresse la résistance. Donc ça, c'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur et jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Afrique, on a pu voir des actions de soutien qui ont eu lieu. Et puis ça, c'est une photo aussi qui a été prise à Raqqa, juste après que les forces démocratiques syriennes aient dû se retirer. Cette photo a été prise donc, du coup, d'un mercenaire qui porte le drapeau de Daesh. Donc du coup, Raqqa, qui était la capitale de l'État islamique historique, a été reprise en fait. Et du coup, c'était un symbole fort aussi de montrer en fait le vrai visage de HTS également. Du coup, au cours de ces attaques, nous on voulait revenir faire un petit focus aussi sur la résistance qui a eu lieu à Alep, parce qu'il y a eu vraiment une grande résistance qui a été menée de la part de la population et de la part des forces de sécurité intérieure, du coup qui protégeaient la ville contre la colonisation et l'occupation. Et donc la ville d'Alep a été encerclée par 40 000 mercenaires, militaires, etc., contre quelques centaines en fait, de combattants qui ont protégé la ville. Et au cours de ces combats, notamment, Sheikh Ziyad Alep, qui était un commandant des forces de sécurité de Alep, qui dit « Nous avons pris la décision de mourir et en dehors de cette décision, il n'y a rien d'autre. Nous sommes prêts à donner notre vie pour défendre la révolution. » En fait, c'est ça le message aussi qu'il a donné en fait, avant de tomber martyr. Et il y a notamment cette unité de jeunes combattants qui ont mené une action de donc une action fedaï, une action de d'autosacrifice. Et donc leur nom, je vais les dire. Du coup, c'était la martyre Ferachin Afrin, martyre Hawar Kandil, la martyre Denistia Dilberin Kamishlo et Rojbin Amara. Du coup, qui étaient ensemble une unité. Le commandant de cette unité qui était du coup Hawar Kandil a été blessé et Denistia a repris le commandement de l'unité à ce moment-là. Et elle a eu ce message en fait qu'elle a transmis juste avant qu'ils mènent leur action d'autosacrifice et qu'on voulait vous partager aussi pour montrer à quel point aussi il y a une résistance forte qui a été menée et une volonté forte qui a été montrée à ce moment-là. Et elle a eu ces mots avant de mener l'action d'autosacrifice. Et elle a dit « En ce moment même, nous sommes encerclés par l'ennemi qui représente un grave danger pour le monde entier et les habitants de la région, en particulier les femmes. » De nombreux gangs nous attaquent. Nous utilisons désormais nos munitions avec beaucoup de prudence afin de ne pas les épuiser. Il est essentiel que tous nos camarades et notre peuple sachent que nous nous battrons jusqu'au dernier souffle, quoi qu'il arrive. On nous demande de nous rendre, mais tout comme Zarife et Bessé ont sauté des falaises de Dersim, et tout comme Rendi Khan a mis fin à ses jours sur le pont de Malbati, nous ne renoncerons jamais à la résistance. À l'heure actuelle, nous avons tous une bombe que nous avons désamorcée. Si nous apprenons que nos munitions sont épuisées, nous cinq, côte à côte, mènerons une opération de sacrifice contre l'ennemi fasciste, qui a commis toutes sortes d'atrocités contre nos camarades et notre peuple. Quoi qu'il arrive, rien n'est plus important que de protéger la dignité de notre peuple. » Et donc c'est suite à ça qu'ils ont mené leur action d'autosacrifice. Il y a énormément de vidéos d'exactions aussi qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, notamment une que des mercenaires de Daesh ont partagée, qui montre qu'ils jettent un corps en fait, du haut d'un bâtiment. Et qui est donc la martyre Denistia, qui donc après a subi cette exaction de la part de Daesh.
Du coup, les attaques ont commencé début janvier de cette année-là. Du coup, il y a eu cette réunion à Paris. Après, il y a eu le 6 janvier, ça a commencé à Alep. Ça s'est étendu après dans tout le reste du nord-est de la Syrie. Et en fait, on peut vraiment dire que ça a été une attaque éclair, ça a été une guerre éclair qui a aussi pris de court, quoi, qui a pris de surprise les forces d'autodéfense au Rojava. Et du coup, c'était le 19 janvier, il y a une tentative d'imposer en fait un accord de capitulation au Rojava, avec l'idée de profiter de cet effet de surprise et de ces attaques très très fortes pour en fait imposer une reddition totale à l'administration autonome, aux forces d'autodéfense. Et du coup, à ce moment-là, il y a eu un refus de la part des délégués du Rojava qui étaient à Damas, qui ont refusé de signer l'accord, qui sont revenus dans les territoires autonomes et qui ont appelé à une mobilisation générale et à dire qu'en fait, ça ne serait jamais accepté, cet accord de capitulation, et que face à ça, il y allait avoir une résistance totale et jusqu'au bout, tant qu'il n'y aurait pas d'autres solutions qui seraient proposées. Pour montrer un peu, du coup, aussi avoir une idée de ça a été quoi la mobilisation. Dans le sens où il y a eu vraiment un appel directement le soir même de dire il faut que la jeunesse kurde, ou en général le peuple kurde, ne reconnaisse plus les frontières qui ont justement été tracées il y a un siècle par les forces impérialistes, par les forces d'occupation, et traverse les frontières des différentes parties du Kurdistan, du coup depuis la Turquie, depuis l'Irak, depuis l'Iran, et rejoigne la révolution au Rojava pour protéger la révolution. Il y a eu notamment cet appel qui a directement été suivi, avec des centaines de jeunes qui ont franchi les frontières, qui sont venus rejoindre le Rojava. Puis en fait, dans le même moment, dans les jours d'après, des mobilisations de masse dans les différentes parties du Kurdistan, mais aussi dans la diaspora. Du coup, peut-être à Paris, vous avez aussi participé à certaines manifestations, mais dans énormément de villes en Europe, il y avait ces actions-là qui étaient organisées, ces manifestations, et qui ont aussi, au niveau psychologique, un peu mis un frein en fait, aux attaques. D'un coup, il y a eu ce réveil-là, ce sursaut. Et ensuite, à partir de ce moment-là, les attaques et la progression de HTS, de l'État turc, s'est arrêté, ils n'ont pas pu avancer plus.
Yeah.
et nous poursuivons l'écoute de cette rencontre qui avait lieu le vendredi 13 février 2026 au Centre démocratique kurde de France à Paris, organisé par le comité Rojava Paris, autour de la situation politique, militaire et géopolitique du Rojava.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans ces semaines de mobilisation, que ce soit au Kurdistan, que ce soit au Rojava, mais du coup aussi partout autour du monde, la réaction qu'il y a eu en fait des peuples pour mettre fin aux attaques. Du coup, ça a été vraiment plein de formes d'actions différentes, plein d'initiatives qui ont été prises à tous les niveaux, que ce soit directement venir au Rojava, que ce soit se mobiliser en Europe, aussi du coup dans le Kurdistan du Sud, en Irak, il y a eu énormément de mobilisation. Et tout ça, ça a redonné énormément de force aussi aux camarades sur place pour faire face aux attaques. Et ça a redonné beaucoup d'espoir à la population. Et ça a aussi en fait forcé à la fois le régime d'HTS, du coup le nouveau régime syrien, mais aussi les puissances internationales qui avaient pris part à ce complot contre le Rojava, à revoir leur plan et à se dire en fait, on ne peut pas continuer sur cette voie-là. Il faut qu'on revienne à la table des négociations et qu'on réfléchisse à une forme de solution politique, parce que là, ça ne va pas être possible d'insister sur une destruction totale militaire du Rojava. Et notamment, du coup, il y a eu une intervention du coup, du leader du mouvement kurde, Abdullah Öcalan, dans cette situation, pour aussi forcer la mise en place d'un accord et de négociations. Du coup, Abdullah Öcalan, c'est le leader du PKK, qui est du coup le parti qui a ensuite développé le mouvement de libération kurde et qui, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, est au cœur du mouvement de libération kurde. Abdullah Öcalan, il est emprisonné depuis 1999 sur l'île prison d'Imrali, mais malgré ça, il joue toujours un rôle très important pour le mouvement kurde en tant que guide idéologique, mais aussi dans les dernières années, où il a pu à nouveau participer jusqu'à un certain point à la vie politique au Moyen-Orient. Il joue un rôle central dans pousser à ce que le mouvement kurde puisse dépasser, on va dire que la question kurde puisse se sortir d'une question militaire et de conflits armés et passer à une résolution politique et sociale. Du coup, son travail principal depuis plus d'un an, c'est ça, c'est pousser à ça. Et notamment, du coup, dans cette situation, il y a eu l'idée de dire au début, ils veulent faire passer un accord de capitulation. Du coup, le message, c'était de dire, en fait, contre cette capitulation, nous, on va opposer une résistance totale. Du coup, cette résistance, elle a été faite pendant plus de 2 semaines. Et une fois qu'ils sont revenus à la table de négociation, il y a eu une réunion qui a été faite au Rojava directement quelques jours avant le 29 janvier. Il y avait, du coup, des représentants de l'État turc, une délégation qui représentait Öcalan, des représentants de l'administration autonome, des représentants de Damas, des diplomates américains et français. Et du coup, cette réunion, elle a donné lieu à l'accord du 29 janvier. Et les 3 lignes rouges, c'était l'idée de dire nous, ce qu'on veut garder, c'est l'autodéfense, l'autogouvernement et les droits pour la langue et l'éducation. C'était les 3 lignes rouges, et notamment aussi la question de la révolution des femmes et de dire que les brigades autonomes des femmes devraient être gardées dans tous les cas. On va dire que ça, c'était les principaux points qui ont été gagnés aussi avec cet accord-là. Et qui en soi, on ne peut pas dire que c'est un accord 100% positif ou 100% négatif. Ça a été, on va dire, au niveau rationnel et réalistique dans cette situation où il y avait eu cette réunion, ce complot mis en place contre le Rojava. C'était réalistiquement ce qui était possible de mettre en place. Ce qui ne veut pas dire que c'est le mieux. Et ça a été aussi le résultat d'une lutte très intense, une mobilisation générale de la population kurde dans toutes les parties du Kurdistan, dans la diaspora et énormément d'initiatives prises au niveau international. Ça a été le résultat de ça. Et qu'en fait, pour qu'il soit vraiment mis en place et qu'il puisse amener à des développements positifs aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qu'il puisse amener à une forme de statut aussi pour le Rojava, ça va demander toujours plus de mobilisation, toujours plus de lutte, et une lutte continue si on veut vraiment que ça tienne. Dans le sens où leur but en premier, c'est juste d'éradiquer tout ce qui est possible de faire. On le voit au Rojava, mais en fait, on le voit tout autour du monde. On est dans un ordre, maintenant, on est dans, on va dire, un nouvel ordre mondial où l'idée de droit international, l'idée des institutions qui ont été développées après la Seconde Guerre mondiale pour tenter un peu de faire en sorte que les conflits qui avaient lieu jusqu'à là soient résolus d'une manière différente que purement militaire. De plus en plus, en fait, on le voit avec Gaza, on le voit avec plein d'autres conflits autour du monde, qu'on est sorti de cet ordre international qui était basé plus ou moins sur des formes de régulation avec des formes de droit international, et qu'aujourd'hui, en fait, c'est en fonction de à quel point tu as une capacité de résistance, à quel point tu as une capacité d'auto-organisation. Et c'est ça qui va, on va dire, définir quand tu arrives à la table de négociation ce que tu vas pouvoir avoir ou pas. Du coup, pour que ça puisse continuer et que cet accord puisse vraiment amener à des résultats positifs, ça demande une lutte permanente, que ce soit sur place ou ailleurs aussi, en dehors du Rojava. À la fois, il y a les forces militaires professionnelles au Rojava, du coup les forces démocratiques syriennes, les YPJ, YPG, mais à côté de ça, dans des moments comme ça de mobilisation générale, en fait, c'est toute la population qui prend les armes, les mères de famille, les familles, toute la population qui prend les armes dans les quartiers, village par village, quartier par quartier, qui s'auto-organise et qui mène un front uni contre les attaques. Du coup, on a pu assister à ça aussi dans les dernières semaines. Et du coup, ça a amené à cet accord-là. Depuis le 29 janvier, il y a une mise en place progressive de cet accord qui, du coup, implique une forme d'intégration des institutions de l'administration autonome au sein du nouvel État syrien. Mais du coup, tout en préservant certaines caractéristiques fondamentales qui finalement font qu'il y a une forme d'autonomie qui est conservée. Mais du coup, c'est quand même un équilibre assez fragile et, comme on l'a dit, qui va pouvoir être préservé en fonction de la lutte qui va continuer à être menée. Et le principal problème aussi aujourd'hui, c'est que du coup, Kobané, la ville qui avait vaincu Daesh en 2014, qui a été le premier endroit où Daesh a été vaincu et qui ensuite a été le point de départ aussi pour une lutte contre Daesh et la défaite ensuite, quelques années après. La ville de Kobané, aujourd'hui, elle est toujours dans un état de siège où, du coup, HTS n'a pas levé le siège autour. D'un côté, c'est les frontières avec la Turquie. De l'autre côté, c'est HTS qui encercle Kobané. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est très lourde à Kobané. Et normalement, une partie de l'accord, c'est que le siège soit levé. Pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en pratique. Du coup, c'est un des principaux points qu'il faut qu'on continue à regarder dans les prochains jours. Du coup, pour la situation maintenant au Rojava, on peut dire ça. Et on voulait aussi finir rapidement notre présentation en parlant rapidement aussi dans quel contexte géopolitique plus large ces attaques elles prennent place. Dans le sens où, comme le disait la camarade au début, il n'y a rien qui est déconnecté, il n'y a rien qui est isolé. Dans ces conflits-là, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit à n'importe quel endroit du monde, il y a toujours des connexions entre les différents événements, entre les différents conflits militaires. Et c'est important que nous, en tant que peuple aussi, en tant que société en résistance autour du monde, on comprenne c'est quoi, dans quel plan ces attaques elles prennent place, pour mieux aussi résister contre, pour avoir une compréhension plus générale aussi de la situation. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que le Moyen-Orient, aujourd'hui, il se trouve au centre, on peut dire, d'une guerre mondiale. Par exemple, le mouvement kurde parle de troisième guerre mondiale pour définir la situation du monde aujourd'hui, la situation des conflits militaires autour du monde aujourd'hui. Et avec le Moyen-Orient qui représente aussi un centre à ce niveau-là. Et ce qu'on voit, c'est que le Moyen-Orient, il y a tous les acteurs, en fait, il y a tous les pays, il y a tous les États qui essaient de jouer un rôle, qui essaient d'influencer ce qui se passe au Moyen-Orient et qui essaient aujourd'hui en particulier de créer un nouveau Moyen-Orient. Le Moyen-Orient tel qu'on connaît aujourd'hui, il a été créé au début du XXe siècle. Ça fait maintenant un siècle. Et ce qu'on voit, c'est qu'un siècle plus tard, l'idée, c'est de créer un nouveau Moyen-Orient qui corresponde aux intérêts des puissances impérialistes, qui soit redesigné, qu'il y ait un nouveau design qui soit fait et qui corresponde aux nouveaux intérêts qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. À l'époque, du coup, il y avait cette idée de découper en plein d'États-nations. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est au contraire d'essayer de dépasser cette forme d'État-nation et d'arriver à un nouveau modèle politique qui ne veut pas dire qui est émancipant, pas du tout pour les peuples, mais qui correspond notamment au fait que le capitalisme, et c'est devenu un capitalisme financier qui est basé sur, par exemple, les routes énergétiques, qui est basé sur le commerce mondial, sur les échanges internationaux, et la forme de l'État-nation, elle représente jusqu'à un certain point aussi un obstacle face à ça. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que notamment un des projets, du coup, ça va être, c'est connu sous le nom de Great Middle East Project. Donc ça, c'est un peu un des projets qui cherche que les puissances impérialistes, notamment du coup Israël, les États-Unis, l'Union européenne, on va dire que le camp occidental, essayent d'imposer au Moyen-Orient et qui est basé sur cette nouvelle phase dans laquelle est entré le capitalisme. Et du coup, notamment, ça passe au niveau concret, on va dire, on peut parler comme d'un OTAN pour le Moyen-Orient. Ça passe par les accords d'Abraham. Du coup, peut-être vous avez aussi entendu parler de ça. Les accords d'Abraham qui officialisent les relations entre les États du Moyen-Orient et les États arabes en particulier et Israël. Et qui permet à Israël de se donner une légitimité et de pouvoir jouer ce rôle-là pour le camp occidental au Moyen-Orient, de pouvoir exporter la guerre, de pouvoir jouer ce rôle stratégique. Du coup, il y a les accords d'Abraham, il y a ce projet de Great Middle East Project, et du coup, toutes les attaques qu'on connaît depuis, par exemple, la guerre génocidaire à Gaza, mais du coup jusqu'au Yémen, les attaques contre le Liban, les attaques contre l'Iran, toutes ces attaques, elles peuvent être comprises dans ce plan de reconfiguration du Moyen-Orient basé sur les intérêts de ce camp occidental. Du coup, on peut les comprendre sous ce cadre-là. Du coup, d'affaiblir les régimes politiques existants pour les forcer à se placer sur la ligne d'Israël et du camp occidental, ou les renverser quand ils n'acceptent pas de se mettre sur la ligne. Du coup, par exemple, la Syrie aussi, renversement du régime de Bachar el-Assad, elle peut être compris aussi sous cet angle-là, parce que Bachar el-Assad était aligné avec la Russie, avec l'Iran, et du coup représentait un obstacle. Et du coup, on peut voir ça sous cet angle-là. Et du coup, notamment avec des projets de construction de routes commerciales qui vont par exemple de l'Inde à l'Europe, et du coup la nécessité de construire ces routes et d'attaquer toute opposition à ça. Il y a aussi d'autres puissances comme l'Iran, la Turquie, qui eux essaient plutôt de protéger le statu quo, qui ont été des États qui ont été créés suite par exemple aux accords de Sykes-Picot il y a 100 ans, et qui désirent protéger leur statut en tant qu'État, et qui du coup sont en contradiction avec par exemple les plans du camp occidental, mais qui ne représentent pas non plus une alternative du tout pour les peuples au Moyen-Orient. Mais voilà, on peut voir aussi qu'il y a des plans de différentes puissances impérialistes qui rentrent en contradiction à ce niveau-là. Et du coup, une troisième voie qui est poussée par le mouvement kurde en alliance avec d'autres peuples, avec d'autres organisations au Moyen-Orient, peut être définie sous l'idée de confédéralisme démocratique du Moyen-Orient, qui est l'idée de se dire on n'accepte pas les plans du camp occidental pour le Moyen-Orient, de redéfinir comme ça, pour leur propre intérêt, le Moyen-Orient tel qu'il existe. Mais par contre, on n'accepte pas non plus les États-nations et le système d'États-nations qui a été le résultat des politiques impérialistes il y a 100 ans. Du coup, on n'accepte pas ces deux voies. On est contre ça et on veut développer un système basé sur l'auto-organisation des peuples, sur aussi, du coup, notamment l'idée de nation démocratique qui vise à dépasser les divisions ethniques qui ont été mises en place justement pour servir les intérêts de puissances étrangères. L'idée de se dire, en fait, c'est possible de recréer un système basé sur la coexistence des peuples, basé sur l'auto-organisation par la base. Et c'est ça le projet, la proposition qui est proposée aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient. Et du coup, dans cette perspective-là, il faut comprendre que les attaques contre le Rojava, à la fois, ça s'inscrit dans des intérêts très, on va dire, rationnels, très basés aussi, il y a des intérêts matériels très clairs. Mais à côté, c'est aussi vraiment des attaques idéologiques. C'est de se dire, le Rojava, il faut se rendre compte que le territoire, c'est à peu près l'équivalent de la Belgique, et que ça comprend plus de 6 millions, 7 millions de personnes. Du coup, ce n'est pas juste un exemple très, très marginal d'une communauté quelque part. C'est vraiment d'un niveau d'un pays entier, on peut dire. Et que jusqu'à un certain point, ça a été vraiment la mise en pratique d'un système basé justement sur la fraternité, la sororité des peuples, sur l'auto-organisation, sur essayer en fait de dépasser les pièges et les schémas qui ont été à la source de tous les conflits depuis 100 ans, d'essayer en fait de mettre en place autre chose. Et du coup, si ça continue à réussir et à se développer, ça représente une possibilité pour l'ensemble du Moyen-Orient aussi. Et du coup, une voie de sortie, une voie alternative qui sort justement des pièges des autres plans. Et du coup, à ce niveau-là, les attaques contre le Rojava, c'est vraiment l'idée de se dire on se débarrasse aussi de cet exemple démocratique qui peut représenter une source d'inspiration pour tous les peuples dans la région. Pourquoi, en fait, jusqu'à maintenant, ça a pu aussi continuer et puis qu'il y a toutes ces attaques maintenant, c'est que les États-Unis, du coup, ils avaient cet accord-là avec le Rojava sur la lutte contre Daesh, du coup, qui était un accord tactique. À aucun moment, il y avait, on va dire, un alignement idéologique entre les États-Unis et le Rojava. Pas du tout, c'était un accord vraiment très tactique pour la lutte contre Daesh. Et aussi pour avoir un pied en Syrie au moment où le régime d'Assad, lui, refusait de s'aligner sur les États-Unis. Mais au moment où du coup le régime d'Assad est renversé et qu'il y a HTS qui est en fait une sorte de forme de, on va dire, un mercenaire des États-Unis qui arrive au pouvoir, et ben du coup les États-Unis ont plus d'intérêt à continuer à soutenir les forces démocratiques syriennes qui en fait aussi représentent une menace idéologique contre leur plan. Et du coup il y a l'idée de se dire vu que cette force mercenaire de HTS s'aligne sur nos plans, maintenant on va soutenir que eux et on va pouvoir se débarrasser aussi du reste. Du coup, ça a été basé sur ça, et notamment de manière très concrète, il y a eu des demandes aux forces démocratiques syriennes de se battre contre des milices iraniennes en Irak et en Iran au service des États-Unis. Et il y a eu un refus très clair du mouvement kurde et des forces démocratiques syriennes de dire « Non, nous, on ne servira jamais de proxy pour vos plans impérialistes. » Et s'il y a une alliance tactique contre Daesh, c'est qu'il y avait des raisons à ça. Par contre, jamais on ira combattre dans d'autres pays pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et au même moment, notamment par exemple les forces kurdes en Iran, il y a aussi eu des demandes d'Israël et des États-Unis de servir justement de forces mercenaires. Et de la même manière, il y a eu un refus dans les derniers mois. Et de cette manière-là, il y a eu cette décision de dire « Ok, ils refusent de s'aligner sur nos plans, ils refusent de devenir des mercenaires. Bon, on va se débarrasser d'eux et on va utiliser ces forces-là, HTS, on va utiliser les mercenaires djihadistes qui acceptent de travailler avec nous pour mettre en place nos plans. » Du coup, c'est ça, faut voilà, arriver à voir comment, en fait, de manière très très concrète, ces différents plans, ces différentes stratégies, elles sont mises en place et elles ont des conséquences très concrètes. Et que essayer de tenir des lignes dans cette situation, c'est très difficile, mais c'est notamment ce que le mouvement kurde essaie de faire au prix de sacrifices énormes et qui explique du coup la situation en ce moment. Puis on va finir sur ça. C'est une interview très récente qui a été faite avec Jamil Baik, qui est le coprésident du KCK, qui est l'organisation parapluie de tout le mouvement kurde, avec l'idée de la construction du Koufaïs démocratique par la base, en reliant et en coordinant toutes les institutions du mouvement kurde dans les différentes parties du Kurdistan. Et du coup, c'est sur la question un peu de est-ce que la révolution est finie, parce qu'il y a eu énormément en fait, d'attaques aussi. Suite aux attaques physiques qu'il y a eu, aussi énormément d'attaques idéologiques contre le projet du Rojava, de dire finalement l'idée de fraternité des peuples, ça marche pas parce qu'il y a des divisions, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a eu notamment les territoires arabes qui ont été récupérés à nouveau par le régime syrien, la révolution des femmes, ça marche pas, énormément d'attaques comme ça qui ont été faites contre les idées mêmes qui sont au centre de la révolution du Rojava. Et du coup, on peut lire cette partie qui est intéressante, qui dit « Si un système s'effondre aujourd'hui, c'est bien le système étatique, capitaliste, moderniste et axé sur le pouvoir. Les problèmes et les crises que ce système cause chaque jour à l'humanité à travers le monde ne prouvent-ils pas qu'il doit être surmonté? Ceux qui affirment que l'idée d'une vie démocratique, libre et juste pour les peuples s'est effondrée dans le cas du Nord-Est et de la Syrie sont eux-mêmes en état d'effondrement. Plus précisément, ce sont des segments de la société qui sont esclaves d'autres idées, dépourvus de l'idée d'une vie libre et démocratique. » Laissons de côté l'effondrement de ce paradigme. C'est une idée qui offre un nouvel espoir à l'humanité et qui sera de plus en plus adoptée, tout comme le système social et politique qu'elle envisage. Du coup, c'est vraiment l'idée de se dire, tout au contraire d'un effondrement, en fait, oui, il y a des attaques, il y a des complots internationaux. Effectivement, il y a des puissances qui vont aller contre ça, qui vont essayer de tout opposer aussi au niveau militaire contre le développement de ce genre de système. Mais ça remet pas en question la légitimité et la pertinence de ces idées-là. Et au contraire, c'est un appel à renforcer d'autant plus la lutte, à insister d'autant plus sur ses valeurs et sur ses idées et sur ce qui a été mis en place dans la situation du Rojava. Et qu'effectivement, la situation est très difficile aujourd'hui, qu'il y a eu une attaque énorme, mais ça ne remet pas en question ça, la validité. Au contraire, face à la situation de guerre mondiale auquel on assiste aujourd'hui, c'est un appel d'autant plus à protéger ce qui existe toujours et à insister d'autant plus sur ses idées, dans l'idée de les étendre et de les diffuser un maximum partout où c'est possible. Pour finir, on peut vraiment, je pense, dire ça, c'est que le message du Rojava et la résistance qui a eu lieu autour, et pourquoi en fait il y a une réaction aussi forte des peuples autour du monde, c'est qu'il y a vraiment essayé de se dire, de voir dans le Rojava plus que juste un exemple à quelque part autour du monde d'une vie alternative, mais c'est vraiment de trouver énormément d'espoir à partir de cette révolution et qui donne énormément de force aux peuples autour du monde dans leur lutte et dans leur lutte pour aussi une alternative. Et du coup, c'est l'idée aussi de l'internationalisme qui est liée à ça. C'est-à-dire que l'internationalisme, c'est pas uniquement depuis nous, par exemple, depuis l'Europe, depuis nos vies un peu confortables, un peu loin de tous ces conflits, on vient en soutien à d'autres peuples autour du monde, mais c'est reconnaître qu'en fait, on fait partie d'une lutte commune. En tant que peuple, en tant que société, on a un intérêt commun à s'unir et à lutter contre ce système d'oppression qui, même s'il s'exprime de manière différente à différents endroits du monde, finalement sont très similaires. Quand on pense au système d'État-nation, en fait, il a aussi été mis en place en Europe, a aussi causé des massacres et des problèmes sociaux qui sont existants jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment reconnaître cette unité qu'il y a et l'intérêt à s'unir entre peuples et cette idée de développer une conscience collective, de faire partie d'une lutte commune, plus que juste une posture de solidarité. Et du coup, l'exemple du Rojava, on peut dire que ça a énormément participé dans les dernières années, et là, dans la dernière mobilisation aussi, à recréer cette conscience de faire partie d'une lutte commune avec cet effort d'unité et de défense de la révolution Rojava. et qu'un des exemples aussi les plus forts, ça a été cette caravane des peuples, où du jour au lendemain, il y a des jeunes, des mères de famille aussi, des parents de partout en Europe qui ont pris la décision de partir jusqu'à Kobané, qui est quand même pas une décision non plus facile quand on pense à ce que ça peut impliquer dans une situation de guerre, et qui se sont dit on y va, et qui ont pris des décisions et qui sont partis là-bas et qui expriment vraiment cet esprit internationaliste. Il y a peut-être quelques questions rapides, on peut aussi les prendre sur plus la situation au Rojava, comprendre plus la contexte géopolitique, on peut répondre à ces questions-là.
Mais en même temps, il a la liberté de parler par visio. Enfin, comment ça se passe concrètement, le fait qu'il soit à la table de négociation, je ne comprends pas trop.
C'est une situation qui est effectivement très compliquée. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dépendance vis-à-vis de l'État turc. C'est à quel point l'État turc accepte qu'il puisse y avoir, par exemple, des délégations du parti légal kurde en Turquie qui puissent lui rendre visite à Imrali. Enfin, il y a toujours une forme de contrôle de la communication. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement réel en termes d'isolation carcérale, il est toujours dans une forme d'isolation carcérale, mais il y a quand même des délégations du Thème Parti qui ont la capacité de lui rendre visite et d'avoir ces discussions-là. Mais du coup, par exemple, les attaques ont commencé le 6 janvier, et la première visite qui a pu avoir lieu, c'était le 17 janvier, du coup quand même beaucoup plus tard. Mais du coup, il y a eu cette visite-là, et ensuite, bah, il a la capacité de transmettre des messages et des propositions à ces délégations qui lui rendent visite, qui ensuite vont retransmettre ces propositions et ces idées-là, ces analyses, à nouveau dans d'autres réunions. Du coup, par exemple, la réunion qui a donné lieu ensuite à l'accord du 29 janvier, c'était une délégation qui lui avait rendu visite à Imrali, qui a pu retransmettre. Mais il n'y a pas de possibilité de visio, il n'y a pas de possibilité d'appel. Du coup, ça reste quand même très, très limité, les capacités qu'il peut y avoir de communication.
Et pour faire juste un petit ajout aussi, avant du coup cet appel à la société démocratique le 27 février de l'année dernière, et du coup tout ce processus de paix qui a commencé, ça faisait 3 ans que du coup Abdullah Öcalan était en isolement total, donc avec aucune visite, aucune possibilité de faire sortir quoi que ce soit, et aucune nouvelle, personne ne savait du coup quelle était la situation. Donc c'était 3 ans comme ça, et puis en fait depuis 27 ans qu'il est emprisonné, il y a eu très peu de possibilités d'avoir des visites et d'avoir accès à des avocats. Et là, notamment les livres qui sont sur cette table, les livres d'Abdullah Öcalan, c'est important de comprendre aussi ces cinq manifestes. C'est les écrits de défense, en fait, qu'il a écrits. En fait, c'est le changement de paradigme qui a été donc le passage d'une idéologie marxiste-léniniste à une idéologie qui est plus communaliste et basée sur la coexistence des peuples, la liberté des femmes, etc. Ce changement de paradigme, il s'est fait par ses écrits de défense qu'il a présentés donc au tribunal. Et donc, pour les écrire, parfois, il n'avait pas de stylo, parfois, il n'avait pas de papier, parfois, il n'avait pas le droit d'avoir des livres. Il ne pouvait pas prendre des notes. Donc, en fait, c'est vraiment aussi tout un chemin de réflexion qui est présenté là. Et du coup, qui est, au niveau de la lecture, c'est peut-être des fois pas évident. C'est important de le dire. Mais parce que ça vient d'un processus très compliqué, en fait, pour sortir quelque chose de cette prison. C'est des années de lutte et de combat qui sont menées aussi par Abdullah Öcalan au sein de cette prison. Et par le peuple kurde qui mène une campagne depuis le début de son emprisonnement. Et du coup, oui, la campagne pour la libération d'Abdullah Öcalan continue. Et une revendication, une des plus importantes aussi, pour la résolution de la question kurde. Tant que Abdullah Öcalan est emprisonné sur cette île et qu'il n'y a pas accès à un moyen de travailler en fait, pour mettre en place cette paix et cette résolution de la question kurde, il ne peut pas y avoir en fait, d'avancement. Donc c'est aussi une question primordiale.
Merci pour la présentation, les camarades. Moi, j'étais pas du tout au courant, même si le Golan est en train, enfin, était déjà bien annexé, que dès qu'Al-Assad est tombé, Israël a avancé. Il y a quand même aussi là-bas tout un conflit entre le gouvernement de transition syrien et les Druzes, avec des Druzes qui, en plus, étaient complètement contre l'annexion qui se faisait petit à petit par Israël. Du coup, en ce moment, les Druzes, ils réagissent comment par rapport à tout ça, sachant qu'en plus, il y a déjà eu des massacres, il y a déjà eu des affrontements. Savoir comment ça se passait pour eux, si vous avez des infos pour eux. Et aussi par rapport à la Russie, parce que Lina, vous l'avez mentionné, mais la Russie, je crois qu'elle a deux bases là-bas, notamment une base qui est vraiment leur ouverture sur la mer Méditerranée. Et où est-ce que ça en est? Parce qu'à un moment, il disait qu'apparemment les Russes voulaient se retirer, mais d'un côté, Netanyahou faisait pression sur Al-Shara pour que quand même tu pourrais laisser une base navale russe. Vous avez un peu plus d'infos sur ça, là. Merci.
Et du coup, le peuple druze, il vit lui au sud du territoire syrien. Et du coup, aussi, ils ont une religion différente. Ils ne sont pas arabes, ils sont, du coup, c'est une autre ethnie. Et du coup, de la même manière, en fait, au moment du régime de Bachar el-Assad, mais du coup aussi actuellement, ils subissent toujours, basés sur la même mentalité homogénéisante et unificatrice de l'État-nation, il y a l'idée de se dire, d'éliminer en fait cette différence, cette culture, cette autre langue. Et du coup, ils subissent tout un tas d'attaques, et notamment en juillet dernier, si je ne me trompe pas, en tout cas à l'été dernier, il y a eu vraiment des attaques de masse qui ont été menées contre les territoires druzes par le nouveau régime de HTS. Et en fait, ce qu'on voit, la position de la politique d'Israël en fait par rapport aux Druzes, c'est la même manière que ce qu'ils essaient de faire avec les Kurdes. C'est en fait de, on va dire, laisser faire ces attaques, de pousser à ce que vraiment ces peuples-là se retrouvent dans des situations existentielles, de vie ou de mort, et ensuite, entre guillemets, de venir à leur secours et de proposer leur aide pour en fait forcer ces populations à accepter des accords aussi, notamment avec Israël. Du coup, ce qu'ils essaient de mettre en place avec les Kurdes, c'est ça, et ce que jusqu'à maintenant la population kurde et le mouvement kurde a refusé, mais qui en fait, dans des situations comme ça existentielles, ça peut devenir très compliqué. Et on va dire que la politique d'Israël au Moyen-Orient, c'est ça, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait des minorités comme ça qui se mettent avec eux pour qui suivent leur plan, et de pousser à ce que ils se retrouvent dans des situations, des questions existentielles, quoi, des questions de vie ou de mort. Et du coup, ce qui fait qu'effectivement, la population druze, en général, était contre l'occupation d'Israël du sud de la Syrie, mais que dans une situation comme ça, il y a notamment certaines parties de la population druze qui ont accepté ces accords-là avec Israël. Du coup, ça reste compliqué. A priori, il n'y a rien qui a été dit officiel à ce niveau-là. Mais notamment quand il y avait les attaques, au même moment, Israël bombardait certains endroits à Damas contre le régime pour essayer de faire en sorte que les attaques s'arrêtent. Du coup, là, c'est cette question, en fait, à aucun moment, en fait, Israël veut vraiment le bien de ses populations, mais essaye de faire en sorte que ces populations se rallient à leur plan et deviennent aussi des forces mercenaires. Mais du coup, actuellement, il y a une forme d'autonomie qui existe, on va dire, de fait, de facto. Il n'y a rien qui a été signé ou qui a été mis en place avec le régime d'HTS, mais de fait, ils ont leurs propres forces d'autodéfense qui, aussi, en fait, sont développées sur le modèle des forces démocratiques syriennes. Du coup, avec l'inspiration des forces démocratiques syriennes, il y a aussi des forces d'autodéfense druzes qui se sont développées dans les derniers mois. Aussi des forces d'autodéfense des femmes druzes qui sont développées de la même manière que les YPJ. Et du coup, ça reste assez intéressant. Et là, récemment, après les attaques contre le Rojava, au moment où l'accord est signé, les jours d'après, il y a eu à nouveau des attaques aussi qui ont repris contre les druzes. Du coup, ça reste une situation très intense. Où voilà, c'est à nouveau une question d'un peuple qui se retrouve entre deux puissances avec des intérêts qui vont contre leur propre intérêt aussi à eux en tant que peuple. Pour la question de la Russie, ce que moi j'ai vu, c'est qu'avant il y avait aussi des bases militaires russes au niveau des territoires autonomes, l'administration autonome, et qui là en fait se sont retirées dans les dernières semaines pour uniquement garder leur base à l'attaquer, si je ne me trompe pas, du coup sur la côte méditerranéenne de la Syrie. Du coup, ils gardent uniquement cette base, ils sont retirés de l'administration autonome. Et HTS essaie de mettre en place une forme de normalisation des relations avec la Russie. Du coup, il y a Al-Shara qui est allé à Moscou, qui est allé voir Poutine, voilà, pour essayer de trouver une forme de normalisation de ces relations.
Et pour terminer cette émission consacrée au Rojava, nous allons revenir sur un article de Reporter du 3 février 2026. La caravane pour le Rojava soutient au peuple kurde arrêté en Turquie. La caravane pour le Rojava a été arrêtée le vendredi 31 janvier à la suite d'une manifestation à la frontière turco-syrienne. Les participants devraient bientôt être emmenés à Istanbul afin d'être expulsés de Turquie. Le 24 janvier, plus de 120 personnes issues de différents pays européens s'étaient rassemblées devant les locaux viennois du Parti démocratique kurde, expatriés en Autriche. Elles avaient ensuite pris la direction de la ville de Kobané en Syrie afin de soutenir les Kurdes de cette région semi-autonome du nord-est du pays, attaqués par le pouvoir en place. Le but, alerter l'opinion publique et les médias au plus près de l'enclave assiégée. Durant la manifestation du 31 janvier qui se tenait à Pirsus, une critique de la communauté internationale pour son soutien au gouvernement de transition islamiste de Damas et une demande d'aide immédiate pour le peuple du nord et de l'est de la Syrie était formulée, indique l'équipe de la caravane pour la défense de l'humanité organisatrice de ce mouvement. Au total, 29 jeunes issus de différents pays d'Europe, dont la France, ont été arrêtés par la police turque sur la route de Kobané. Deux jours plus tôt, 19 personnes avaient déjà été arrêtées près de la ville turque de Mardin, avant d'être expulsées vers l'Allemagne. Et certains participants de la mobilisation ont rapporté avoir subi des violences et des actes de torture durant leur détention, assure la caravane dans un communiqué. Voilà donc pour le Rojava aujourd'hui et cet article de reporter publié le 3 février 2026. Et c'est sur cela que l'émission d'aujourd'hui va se terminer. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous retrouvons pour une prochaine émission.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'école Y à Montpellier, Canal Sud, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.